On commence. Nous sommes dans la paracha de Bo. Et cette paracha, bien entendu, est celle qui va clôturer les plaies qui ont été fatales à l'Égypte et à la notion d'Égypte. C'est-à-dire que nous sommes dans les trois dernières plaies, puisque le monde de la sainteté est identique au monde de la négativité. Et étant donné que dans la sainteté, il y a trois degrés supérieurs qui sont des degrés cachés, et sept degrés inférieurs qui sont des degrés dévoilés, dans l'édifice de la sainteté, c'est exactement la même chose. Dans l'édifice de la négativité, c'est pareil. C'est-à-dire que l'Égypte, elle aussi, est construite sur 10 degrés. Et donc, les sept premières plaies que nous avons lues dans la paracha de Vaera vont frapper l'Égypte du bas vers le haut jusqu'au degré de qui dépasse en réalité le monde de la nature. C'est-à-dire qu'on frappe les Égyptiens à un degré naturel. Et dans la paracha de cette semaine, il y a en fait des coups qui sont portés dans les degrés de la tête de l'Égypte, c'est-à-dire le cerveau droit, le cerveau gauche et le cervelet. Ces trois plaies s'habillent dans les trois degrés qui sont dans le harbé, les sauterelles, dans le rocher, qui est là, les torpeurs, le noir, et dans Bechorot, qui est en réalité la plaie des premiers nés. Autrement dit, ces degrés-là viennent frapper, en fait, trois degrés qui sont généralement invisibles. Je vous ai dessiné les trois en haut et les sept en bas. En réalité, les trois sont cachées, elles sont sous terre, et les sept sont dévoilées, apparentes. De la même manière que nous construisons une maison, par exemple, il y a deux tiers au-dessus de la terre, et un tiers de fondation. Donc en réalité, c'est à peu près la proportion. Un tiers, deux tiers, trois tiers. Les bateaux. Tous les édifices sont construits de cette manière-là, et donc il y a 3 degrés cachés, 7 degrés dévoilés. Les 3 degrés cachés sont les degrés de la tête, puisque personne ne sait ce que je pense. Les 7 degrés dévoilés, ce sont les midot, c'est-à-dire l'expression de ma pensée au niveau de ma vie, de mes actes, de ma parole, de mon expression. Eh bien en Égypte, on frappe d'abord les 7, et donc c'est partagé en deux parachiot. Il y a 7 plaies qui sont dans la première paracha, puis 3 plaies qui sont dans la paracha de Bo. Les sages voient ici aussi une allusion, puisque Bo est en valeur numérique 3. Bet, Aleph, c'est-à-dire les 3 derniers. Bet, c'est 1, et Aleph, Bet, c'est 2, et 1, donc ça fait 3. Donc voici les 3 dernières plaies. Ce qui est intéressant de constater, c'est que dans les trois dernières plaies, il y a un dénominateur commun, le noir, puisqu'il fait nuit même pendant la plaie des sauterelles. Il est écrit que les sauterelles ont recouvert l'œil de la terre. Dans la plaie des ténèbres, effectivement, il fait noir. Et dans la plaie des premiers-nés, c'est à la minuit, donc il fait aussi noir, et ça vient en réalité mettre en relief ce que je vous ai dit auparavant. C'est-à-dire que ce sont des degrés qui sont cachés, invisibles, et lorsque l'Égypte reçoit des coups qui lui sont à ce degré-là, portés à ce degré-là, ces trois degrés cachés, ça dépasse en réalité l'entendement. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de machine arrière. Et donc l'Égypte est en train de disparaître, pas parce qu'on veut punir l'Égypte, et ça c'est très important, il n'y a pas de punition dans le judaïsme, mais un birour, c'est-à-dire un tri. On va trier Israël de l'Égypte. Et ce tri-là va laisser l'Égypte vide, puisqu'elle se nourrissait en réalité de Israël qui était en elle. Donc quand on sort Israël d'un certain degré, de n'importe quel contexte, ce contexte est en train de mourir. Il meurt en fait immédiatement. Vayar Israël et Mitzrayim met. Pourquoi ? Tout simplement parce que Israël, c'est le souvenir, la mémoire du divin, donc celui qui fait vivre, sur terre. Donc nous sommes porteurs de vie, là où nous allons. Donc si vous mettez Israël dans un contexte qui s'appelle Égypte, et maintenant vous comprenez que l'Égypte n'est pas seulement un pays, l'Égypte, mais tous les degrés de la vie qui sont en réalité comme des écorces, eh bien c'est Israël qui nourrit et qui fait grandir même le fruit superficiel extérieur. Quand Israël est retiré par une forme de tri, un birour en hébreu, une notion kabbalistique qui vient montrer en réalité les degrés qui sont tombés sont en train de repartir vers leur source, eh bien l'élément, s'il ne sait pas suivre ce mouvement, meurt. Les éléments qui suivent le mouvement restent en vie. On appelle ça le Erevrav. C'est-à-dire il y a un mouvement égyptien où, selon notre parabole, une partie de l'écorce qui suit le fruit. Et donc cette partie va rester vivante. Jusqu'au moment où le tri va se faire encore plus finement et tout doucement on sépare les degrés Hamavdil ben Kodesh lechol ben Israël Amim. C'est une distinction et non pas une séparation pour tuer. Par la première étape, c'est de distinguer Israël, mais la deuxième étape, c'est de revenir, et cette fois-ci d'une manière cohérente et viable, dans le contexte de l'écran que représente l'Égypte. Première des phases, on doit d'abord savoir faire la différence entre la lumière et l'écran. Deuxième phase, la lumière revient vers l'écran. On ne peut pas les laisser séparer. Notre but, c'est pas de sauver Israël de l'Égypte et laisser l'Égypte mourir. C'est tout simplement de sauver l'Égypte. Encore une fois, pas l'Égypte pays, mais les nations du monde et le monde tout entier, toute la création. C'est ça le but du peuple d'Israël, quand on dit que le peuple a été créé, façonné, afin de raconter les valeurs divines dans le monde, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on est venu pour donner en fait à ce monde la valeur réelle, la hauteur réelle, les critères réels avec lesquels il doit vivre. Tant que le monde ne vit pas à ce niveau-là, il est en réalité en train de mourir. Il est dans une période de destruction, d'extinction. Donc Israël, maintenant, une fois qu'il a été trié et qu'il sait son rôle, qu'il reconnaît son être et qu'il l'accepte, parce que tout ça c'est un travail, eh bien il peut devenir en fait un élément de vie pour tout le reste. Maintenant, s'il n'y a pas qu'Israël qui doit reconnaître, il y a l'écran aussi qui doit reconnaître que c'est Israël qui le fait vivre. Donc il y a ici quelque chose qui va dans les deux directions et qui, en fait, agit dans un sens et dans un autre. Israël doit reconnaître son rôle vis-à-vis des nations et les nations doivent accepter que c'est Israël qui est le porteur du message divin. Tant que ce mariage, entre guillemets, ne marche pas, eh bien, il n'y a pas encore de Géoula Shlema. D'accord ? Donc la Géoula, il s'agit de ce degré-là, de la reconnaissance du rôle de chacun dans l'édifice entier qui s'appelle l'humanité et le monde de la création d'une manière générale. Alors, ceci étant dit, c'est la structure globale, donc 7 et 3, n'oubliez jamais, 3 degrés cachés, 7 degrés de dévoilement. Et maintenant, on va comprendre que cette structure-là, que la Torah nous raconte comme une histoire qu'on raconte à un enfant, est une structure qui est valable dans tous les domaines. C'est-à-dire que oublier en fait la sortie d'Égypte comme si c'était une histoire historique du passé, et traduisez cette sortie d'Égypte comme votre propre vie à vous, même au niveau individuel. Bien entendu, au niveau collectif aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qui s'est passé là-bas se repasse à chaque instant, puisque toute cette sortie est au présent. Et d'ailleurs, l'exil aussi est au présent, puisque le texte le dit « Ve'ele shemot bnei Israël habaim mitzraïma ». Il n'y a pas marqué « Voici les noms des enfants d'Israël qui sont descendus en Égypte ». Non, qui descendent, qui viennent. Habaim, em kol hazman baim. C'est-à-dire c'est un éternel mouvement ou vers l'Égypte ou un mouvement de sortie d'Égypte. À toi de choisir de donner la hauteur aux acteurs que tu auras choisi selon ta vie, ta pensée, ton étude. Ça veut dire que les grands acteurs, c'est Moshe et Paro, eh bien, c'est à toi de donner la primauté à l'un ou à l'autre. Si tu fais régner le Paro sur ton Égypte, le corps est un grand Égypte, la Neshama, c'est le Israël qui est en Égypte, et si dans le mot Neshama, il y a le mot Moshe, donc si tu sais lui donner sa valeur, son relief, eh bien, il domine le corps, et ça marche très bien. On n'est pas là pour détruire le corps. Mais si, Chas v'Shalom, tu ne sais pas, et c'est l'inverse, c'est l'Égypte, le corps qui étouffe la Neshama, d'où ve'ele shemot bnei Israël abayim mitzraïma, ce sont les noms qui sont tombés en Égypte, et qui tombent à chaque instant. C'est-à-dire nos capacités à savoir décoder le Moshe, eh bien, Chas v'Shalom, le processus s'inverse, et tu es dans un mode exil, au lieu d'être dans un mode Géoula. Vous comprenez que ça peut changer aussi 100 fois par jour. À chaque instant, quand vous avez une lumière, vous sentez un mouvement de bonheur, ne serait-ce que de 3 à 4 secondes, c'est une mini sortie d'Égypte que vous venez de subir. Et quand vous êtes angoissé, encore une fois, 3 à 4 secondes, c'est encore une descente en Égypte. Donc on est sans arrêt en train de monter et descendre. Si vous avez plus d'Égypte en vous, vous êtes dans un système de dépression. Si vous avez plus de sortie d'Égypte dans vos temps associés, accumulés, bien vous êtes plus dans un processus de Emouna et de Geoula. Donc vous comprenez qu'il s'agit ici de domaines incroyables qui parlent de notre vie. Alors, je vous ai fait un chiour sous forme de points, et on va essayer de traverser ces points un par un, assez rapidement. Je l'ai écrit très vite ce matin, donc s'il y a des fautes, on va les corriger en même temps. Geoulat Mitzrayim, premier point. Hi atashtit lekol ha-geoulot. Vous voyez, chez Bekol Adorot. Donc l'Égypte, la sortie d'Égypte, la rédemption d'Égypte, c'est en réalité la trame, la structure de base de toutes les formes de Géoula que nous allons rencontrer durant toute l'humanité, la vie de l'humanité, l'histoire humaine. Moralité, c'est une leçon extraordinaire d'étudier la sortie d'Égypte. Mais pour étudier la sortie d'Égypte, il faut étudier l'entrée en Égypte. Et pour étudier l'entrée en Égypte, il faut savoir ce que représente l'Égypte. Donc toutes ces notions qui sont en réalité des noms de code, à toi de les décoder dans ta vie, et tu pourras savoir utiliser ce mode de Géoula et l'appliquer dans ta vie ou bien dans la génération actuelle. Mais si tu lis la Torah comme une histoire du passé, aussi sympathique, aussi belle soit-elle, ça ne sert pas à grand chose pour ton présent, pour ta vie, ni au niveau individuel, ni au niveau collectif, chas v'shalom. Donc, haitrachakut me'erke amoussar, deuxième point, le fait de s'éloigner des valeurs de l'éthique divine, ha'elohi, mepila et habria et la roved haradud beyoter shel ha'chaim. C'est ce qui fait tomber en fait la vie au degré le plus bas. Okay? Bria. Okay? De la création. Ça veut dire que plus tu t'éloignes des valeurs du divin, qui sont transcendantes, plus en réalité tu es voué à l'échec. Vemitsraï, et ici entre guillemets, Mitsraï, c'est un nom de code. Kemusag, donc comme notion et non pas comme terre. Hi habituya muhashi la richuk hagadol hazemina shoresh ha'elohi. C'est l'expression la plus claire de l'éloignement le plus loin des valeurs divines. Ça veut dire que la Torah vient t'enseigner quelque chose depuis la création du monde, comme une maman qui accoucherait un bébé. Le bébé sort de sa partie inférieure. Et le bébé s'éloigne de la maman lors de la sortie. D'accord ? Jusqu'à un moment donné. Après, qu'est-ce qu'il fait ? Il revient. Mais c'est exactement la même chose. L'accouchement de ce monde a éloigné la création du Créateur jusqu'au point où on ne peut plus descendre plus bas. Et ce point s'appelle Mitzrayim. Vous avez compris ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas descendre plus bas. D'ailleurs, pourquoi j'ai donné l'image d'une maman qui accouche? Car la maman accouche de cette partie de son corps qui s'appelle Erva. Eh bien, Mitzrayim s'appelle Erva Ta'aret. C'est-à-dire que la nudité, la partie en fait sexuelle de la terre, c'est l'Égypte. Donc moralité, elle est porteuse de vie d'un côté, mais en même temps, Chas v'shalom, elle peut être quelque chose qui est complètement négatif, puisque la femme subit d'une manière régulière ces deux possibilités. Ou bien un bébé meurt chaque mois, et donc elle voit du sang, et elle doit porter le deuil pendant 7 jours, donc elle compte 7 jours de deuil pour le bébé qui n'est pas né. Donc ce qu'on appelle Shiva Nekim, elle doit se nettoyer, comme la Shevet Shiva, Chas v'Shalom, car c'est une forme de mort, ou bien, lorsqu'elle porte la vie, elle donne la vie, eh bien, c'est l'inverse. Donc, l'Égypte, pareil. L'Égypte, c'est la matrice du peuple d'Israël. Nous sommes nés en Égypte. Donc, notre maman, c'est l'Égypte. Je sais que ça gêne certains. Notre maman, c'est l'Égypte. Et la terre d'Israël n'est pas une maman. La terre d'Israël est notre femme, est notre épouse. C'est différent. Je dois quitter ma mère pour me marier avec ma femme. Sinon, je tombe dans un complexe d'Œdipe incroyable où à chaque fois, je veux revenir vers maman, repartir en France, aux États-Unis, et ainsi de suite. C'est un complexe d'Œdipe, car l'Égypte n'est pas l'Égypte, mais tout ce qui est en dehors de l'Israël. Comprenez-le bien. Donc parfois on subit des complexes d'Œdipe au niveau collectif, c'est-à-dire qu'une grande communauté se développe encore dans le ventre de maman, à Paris ou ailleurs. Alors que prendre tes responsabilités, c'est être capable de quitter maman pour épouser ton épouse et prendre tes responsabilités d'homme. Ça c'est le peuple d'Israël qui revient sur sa terre. Et donc l'entrée en Eretz Israël est appelée Bi'a. Kitavou, comme un rapport intime entre lui et elle. Kitavou et la Haaretz, lorsque vous aurez un rapport avec la terre. Qui d'ailleurs, ce rapport va donner des fruits, que nous allons manger à Tu Bishvat. C'est-à-dire que les fruits que nous allons manger à Tu Bishvat sont une référence, c'est qu'en réalité, j'ai posé sur ma table tous les tris que j'ai fait dans ma vie cette année. Donc ma table va être le reflet de mes birourim, de mes tris. Donc si vous avez une table avec 2 fruits et demi, c'est en réalité la pauvreté de l'esprit dans laquelle vous étiez. Donc il faut s'efforcer, disent les kabbalistes, que la table soit pleine de fruits pour exprimer, c'est un acte symbolique mais qui est très important, de mettre sur table, de mettre à table, okay, tous les degrés de ta vie et de les voir. Troisième degré. Moralité, vous comprenez que l'Égypte, si on reste, et il est important de rester en Égypte, le temps de la fabrication du bébé, de sa structure. 9 mois. C'est-à-dire c'est un passage. Donc ceux qui descendent en Égypte et qui savent qu'ils sont de passage, comment on appelle un passager ? Roubar, parce qu'il est rover. D'accord ? Le roubar qui veut dire le fœtus, donc il ne fait pas fœtus, mais il ne fait que passer. Donc Yosef, quand il descend en Égypte, comment est-ce qu'il s'appelle ? Nar, Ivri, je ne suis que de passage. Mais quelqu'un qui chaz v'shalom, vayer chazouba, comme c'est marqué à la fin du livre de Bereshit, que les enfants d'Israël se sont incrustés là-bas, fondés des communautés, des boucheries cachères, des écoles juives, et des rabbins qui leur disent « je vous interdis de monter ». Okay. Ça, c'est une catastrophe. Donc, il s'agit ici de savoir d'être passager. Donc, le roubar est un fœtus. C'est pour ça que le fœtus, lui aussi, dans le ventre de la mère, il n'est que de passage. Si le fœtus restait un petit peu plus ou beaucoup plus, eh bien, il pourrait tuer et lui et la mère. Non, Yosef, il est ivri. On le considère comme ivri et le texte le dit.
Okay. La
réalité aussi, puisque Yosef sort et il fait jurer ses frères de ne pas le laisser là-bas. Je reste ici pour vous permettre d'être une antenne qui ne va jamais vous faire oublier que vous devez repartir. C'est-à-dire qu'il est fait jurer avant de mourir, je veux que vous me mettiez dans le Nil, pas dans la terre d'Égypte, mais le jour où vous sortez, vous me sortez. D'ailleurs, si vous m'oubliez, vous ne pourrez pas sortir. Je suis la clé de la sortie. Comme j'étais la clé de l'entrée, j'étais de la clé de la sortie. Car Yosef représente quel élément dans le corps humain ? La brise. Donc c'est lui qui est rentré pour donner la vie. Et c'est par là-bas aussi qu'on sort pour la Géoula. Si tu enlèves ce degré, il n'y a rien. Donc Yosef est celui qui représente ce potentiel. Donc il faut bien comprendre. Moshe qui comprend le secret, qu'est-ce qu'il fait pendant que tout le monde s'affaire à préparer ses valises ? Il va chercher Yosef. Il n'y a pas de Yosef, il n'y a pas de sortie. D'accord ? D'ailleurs, la mer ne s'ouvre pas sans Yosef. Hayam Ra'a Vayanos. Pourquoi la mer a vu et elle s'est retirée ? Qu'est-ce qu'elle a vu ? Elle a vu Yosef. C'est-à-dire que Yosef est toujours celui qui déchire la membrane pour donner la vie, pour passer, dans tous les sens du terme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la maladie, d'une manière générale, où est-ce qu'elle se trouve ? Là-bas, lorsque tu ne sais pas que c'est un passage. Donc, quand Akadosh Baruch Hu parle de maladie, qu'est-ce qu'il dit ? Troisième point. Kol ha-machala asher samti be-mitzrayim. Lo asim alecha. Toutes les maladies que j'ai mises en Égypte, je ne les mettrai pas sur toi. Comme si toutes les maladies étaient où ? Qu'en Égypte. Ki ani Hashem rofecha, c'est la suite du verset. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu ne comprends pas le sens de l'Égypte, eh bien, chas v'shalom, tu vas être dans le manque de possibilité de l'expression naturelle et basique de l'être. Ce qu'on appelle en français la maladie, c'est-à-dire l'incapacité de dire. J'ai du mal à dire. Moralité, dit le Zohar à Kadosh, la sortie d'Égypte, c'est l'ouverture de la bouche. Pesach, la bouche qui raconte. Donc si tu ne sais pas t'exprimer, c'est là une preuve que tu es encore exilé dans cet exil de l'être qu'on appelle le Da'at, où on touchera un petit peu plus ce point pour plus son profondeur. C'est-à-dire que la première expression de la guérison, c'est le diagnostic. Où tu sais dire, placer les mots sur la maladie. ce que la malle a dit, maintenant tu sais dire. Si tu sais dire, le malade, paradoxalement, ça fait 3 semaines, le pauvre, il est couché sur son lit d'hôpital, et chaque fois que tu vas le voir, il te dit, ils n'ont pas encore trouvé ce que j'ai. Le scan, il est grave. Le jour où tu viens le voir, il est tout content, il te dit, ça y est, ils ont trouvé. Il devrait pleurer, Bisquet. Okay? Non, parce que c'est maintenant on peut trouver le médicament qui correspond. Mais c'est la même chose. Quand tu ne sais pas définir quelque chose dans ta vie, peu importe dans quel sujet, ça manque d'une voie de guérison. Le porteur lui-même de ce verbe, c'est qui? C'est mon cher Abbé. Qu'est-ce qu'il a en Égypte? Il n'arrive pas à parler. C'est-à-dire lui aussi, il est dans la maladie. Pourquoi? Il est juste le représentant de la nation tout entière qui est malade. Mais lorsque Moshe sort, il commence à chanter « Al Yashir Moshe, ou venez Israël ». C'est-à-dire tout ce qui était impossible d'exprimer est en train d'être exprimé maintenant avec des mots et des mots justes. Autrement dit, la première forme de tikkun dans ce monde, c'est la parole. Et c'est pourquoi Kadosh Baruch Hu a placé le premier homme devant toute la création pour qu'il définisse, qu'il nomme les choses. Et donc en réalité, Adam Arishon, lorsqu'il savait donner le nom à quelqu'un ou à quelque chose qu'il était en train de voir, eh bien il lui donnait en réalité son potentiel de vie. Il arrivait à savoir, selon 2, 3, 4, 5 lettres, tous les codes génétiques de la chose en question. Je veux dire par là que si, par exemple, j'ai une date sur la table de Tu Bishvat, okay, alors une date, ça ne veut rien dire en français, c'est juste une acceptation collective. Okay. Mais Tama, c'est en réalité tout le code génétique de la date, en 3 lettres. Donc si tu sais décoder le Tama, en réalité, tu peux savoir décoder tout le secret de ce fruit, sa fabrication, sa construction et tous les bienfaits qu'il peut faire au corps. Alors, 6 000 ans après l'apparition du premier homme, les médecins vont te dire que si tu manges des dattes le matin, ça t'enlève, ça te nettoie en réalité le côté amer de ta bile. En hébreu, c'est marqué « tam mar ». L'arrêt de l'amertume. Donc juste dans les mots, ça c'est encore le degré le plus simple. Je te parle pas si tu rentres Bichlal dans les codes, dans les valeurs numériques du tamar et tout, et je travaille avec les plus grands spécialistes israéliens à ce sujet d'ailleurs. J'ai la chance qu'ils habitent dans mon village. Okay. Celui qui a par exemple inventé la chassa du Gush Katif sans les verres et tout ça, tous ces ingénieurs, ils habitent chez moi dans le village. Donc on travaille ensemble. Et on décode en réalité le code génétique de tous les degrés. Grâce à des lettres. Car tout est lettres. Tout est combinaison de lettres. D'accord ? Bien avant Armand Jameau. Okay ? Donc la maladie, c'est l'Égypte. Donc guérir, c'est sortir d'Égypte. Alors, un. Nerega yesiat mitzraim. À partir du moment où on sort d'Égypte, donc la sortie d'Égypte, c'est un mouvement inversé. C'est-à-dire que puisque le monde s'est éloigné depuis sa création, s'est éloigné du Créateur, comme la maman qui accouche, vous vous rappelez? Eh bien, quand on a touché l'Égypte, qu'est-ce qu'on fait? On commence à revenir. Donc en réalité, le retour, notion de Teshuvah, la plus grande Teshuvah que le monde ait connue, a commencé un jour quand le 15 Nissan de la sortie d'Égypte. Vous comprenez? À partir de ce moment-là, la notion de Teshuvah, d'une manière générale, commence réellement à être véhiculée dans ce monde. Ça commence par quoi, de facto? Par la sortie d'Israël de ce contexte étouffant qui s'appelle maladie. Donc en réalité, je trouve l'élément de vie qui se cache, et c'est grâce à cet élément de vie que je vais faire revivre le monde. Moralité, ça doit se passer dans un printemps, c'est-à-dire dans un mode optimiste, dans un temps optimiste. Comme le printemps l'est. D'accord ? Donc, Chag Ha'aviv, c'est obligé d'être au printemps. Nous sommes le printemps de l'humanité. Comme je vous l'ai dit, après, il y aura des imitations de printemps plus ou moins ratées. Mais en réalité, Israël, c'est le modèle. C'est pas par hasard qu'on appelle ça le printemps. Ça veut dire que ce printemps va vers l'été, va vers la floraison, va vers le dévoilement des choses. Et donc on se sent en réalité aller vers la lumière. Alors que jusque-là, on allait vers l'extinction. Donc le... Comment on dit là? Non, la tire. La charnière. Entre le mouvement descendant et le mouvement ascendant, c'est l'Égypte. D'accord? Vous comprenez? Ok. 2. Mitzrayim hissia esfer ha'Elohim ha'metziut. Moralité, l'Égypte, c'est le sommet du camouflage, entre guillemets, de Dieu, de la cachette de Dieu dans ce monde. Alors Dieu ne peut pas se cacher plus que la notion Égypte. Donc à chaque fois que tu entendras le code Égypte, sache que Dieu se trouve là-bas, mais d'une manière cachée. Où est-ce que je sais qu'il est là-bas? Il dit à Moshe, Bo, El Paro. Qu'est-ce que ça veut dire Bo?
Viens.
Viens. Autrement dit, je suis où? Là-bas. Chez qui? Chez Paro. Dedans. Bo, El Paro. Donc Dieu parle à Moshe depuis où? Depuis Paro. C'est comme s'il disait à Moshe, pénètre dans la notion Paro pour comprendre le secret. Et là-bas, tu trouveras Israël. Israël se cache où? Dans Paro. Comprenez? Donc Paro a mangé Israël. Il a intégré Israël pour le nourrir de l'intérieur. Comme ces fameuses 7 vaches maigres qui ont mangé les grosses et les belles vaches, velonoda ki ba'u el kirbena, sans qu'on puisse savoir qu'elles les ont avalées. Car ce n'est pas bénéfique réellement pour l'Égypte, elles restent maigres. Autrement dit, le mal a beau manger de la lumière, il reste toujours mal. D'accord? Parce qu'en réalité, pas parce qu'il n'est pas génétiquement, parce qu'il n'est pas généreux dans sa génétique. Et le mot clé ici, c'est générosité. À partir du moment où les enfants d'Israël descendent en lui et qu'ils voient Yosef. Ça, c'est une base en filigrane de ce qui va se passer. C'est comme une prophétie. Tout ce qui se passe chez Abraham au niveau privé avec lui et Sarah et le pharaon de son époque va se passer avec Israël dans le nouveau pharaon. C'est la même chose, exactement la même chose. C'est comme une prophétie. Les Bnei Israël, ils descendent bien d'Égypte. Ils viennent d'Égypte. Les enfants d'Israël viennent d'Égypte. Le peuple est né en Égypte. Je ne parle pas de famille, je ne parle pas d'individu. La première fois que nous sommes considérés et définis comme peuple, c'est même dans la bouche de Paro. C'est lui-même qui nous définit comme peuple. Ça veut dire bien avant que nous puissions savoir ce que nous sommes. Donc les nations comprennent bien avant nous ce que nous sommes. D'accord? Et c'est elle qui nous appuie sur le nez pour savoir que notre nez, donc elle le dessine en grand pour savoir que représente le nez. Mais si tu n'es pas kabbaliste, tu ne peux pas savoir ce que c'est qu'un gros nez. Car un grand nez, en hébreu, ça s'appelle Arichanpin. Arichanpin veut dire le premier niveau, le plus grand de la lumière. Ça veut dire qu'on peut reconnaître un homme qui est capable d'étudier profondément si son nez est prédominant. Je ne veux pas vous rentrer dans tous les degrés parce que sinon vous allez commencer à vous regarder les uns les autres. Alors, on laisse tomber, on passe. Cèdre. Sachez que votre corps raconte tout. C'est même pas la peine de vous cacher tout. Il faut savoir juste savoir lire, c'est tout. Il faut apprendre à lire. Je n'ai pas besoin qu'on parle, on n'a pas besoin réellement, si on étudie, que tu me dises quoi que ce soit. Je peux savoir ce que tu as fait hier soir, ce que tu as fait ce matin, seulement par discrétion, je ne veux pas t'enlever ton libre arbitre, donc je te laisse. C'est tout. Velachen. Smella. D'ailleurs, Smella veut dire Beshem Hashem. C'est encore une fois un nom. Beshem La. Velachen. Derech Halimud Benose Merkazize. Donc par l'étude de ce sujet qui est fondamental, Nitan Leatril Ta'alir Shel Geula Bofen Mamashi Bekol Akumim. Tu peux commencer ta rédemption réellement, de facto, dans tous les domaines de ta vie. C'est tout. Là, tu as commencé ta sortie d'Égypte. Limud haTorah, le point après le 2. Hu pi'anuach hatzfanim hagnuzim beshemot sheHaTorah mishtameshet bahem. L'étude de la Torah, la réelle étude de la Torah, c'est pas d'étudier des textes, c'est de savoir en réalité décoder quel un code. Comment on appelle un décodeur de code en hébreu? Tafnat Paraner. Yosef. Yosef s'appelle le décodeur. Qui lui donne ce nom? Paro, encore une fois. C'est-à-dire le premier décodeur de l'histoire, c'est Yosef. Et c'est Paro qui le désigne et qui sait, il a compris. Nous aussi, nous devons être des Yosef, c'est-à-dire des décodeurs de Torah. Or, qu'est-ce que je dois décoder? Comment est-ce que la Torah me parle? Avec des mots. Avec des mots, des phrases, des lettres. Donc en réalité, tout est combinaison de lettres. Donc je dois être un décodeur de lettres. Donc je dois être champion du monde des lettres hébraïques. Donc je dois savoir l'hébreu. Si je ne connais pas l'hébreu, toute étude en notre langue est une trahison pure et simple de la Torah. Même si tu développes des trucs philosophiques, machin. Vous savez ce que c'est un philosophe? Philosophe. C'est un type qui parle toute la journée. Il n'y a pas de fin. Philosophe. Ok? Alors qu'en réalité, tu peux dire tout ce que tu as dit d'une manière concise, courte et collarate, comme on dit en hébreu, tu touches. Ça sert à rien de rabâcher les gens qui parlent sans arrêt, qui rajoutent et qui essayent de... Okay? Ça, c'est du paka-paka, ça s'appelle. C'est pas ça du tout. La Hagada de Pessah est très courte. Très courte. Je parle de la vraie Hagada, parce que chaque année, selon les générations, on a rajouté. Vous savez, la génération, la Hagada ne s'est pas faite un seul titre et dit, tiens, on va leur faire un petit bouquin avant de manger à Pessah. Non. Chaque génération a apporté la sienne. D'ailleurs, notre nouvelle Agada, qui va être imprimée bientôt, Bezrat Hashem, elle va mettre toute l'ancienne Agada de côté. Bien sûr. On va dire un mot de toute la Agada que vous avez aujourd'hui, ça va se résumer en une phrase. Et tout le nouveau texte va raconter votre montée de France. Je rigole pas. C'est marqué, c'est écrit comme ça. Bezrat Hashem. Si on est assez solide pour croire et véhiculer cette chose-là dans notre réalité, et pas seulement croire que c'est juste des trucs qui restent dans, au niveau spirituel de l'esprit des vapeurs, bien entendu, on va vivre les choses. Pourquoi les gens, quand ils étaient en train de rentrer dans les fours, ils savaient que quelques années après, il y aurait l'État d'Israël? Pour eux, c'était la même chose, c'est des vapeurs. Eh bien, si vous êtes convaincus du troisième temple, eh bien, on va le voir bientôt. C'est pas des vapeurs. Okay. C'est ça le problème d'ailleurs de notre Emouna. On a l'impression qu'on parle de notions qui n'existent pas. Mais je suis en train de vous parler de réalité. C'est très sain ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas des études de Torah, de machin qui planent. Je vous parle de vie.
Okay.
Kécha? Mazal Tov. Donc vous êtes en train, vous êtes arrivé à Chava. Chava est en valeur numérique 19. Limud haTorah hu pi'anuach. Donc l'étude de la Torah, c'est un décodage. Shel hatzfanim, tsofen. Tsofen, ça vient du mot tsafon. D'ailleurs, dans la Haggadah, il y a le tsafun, c'est-à-dire le degré caché, qui vient aussi du nord. Chon tsafon, et il faut comprendre pourquoi. Et d'ailleurs, le compas s'appelle matzpen. C'est pas le compas, la boussole. Okay? Et tout ça, c'est lié, mais bon, si à chaque fois j'ouvre une fenêtre et je pars là-dedans, on s'en sort plus. Mais je veux juste que vous compreniez que tous les secrets sont dans les mots et dans les termes. Donc, Ulpan égale étude de la Torah au plus haut niveau. Si vous avez raté votre Ulpan, ça ne sert à rien d'aller à des cours. Il faut repartir à l'Ulpan d'abord. Agnuzim beshemot sha'atorah mishtameshet bahem. Donc, la Torah, en réalité, n'utilise que des mots pour nous faire passer le message. Donc je dois savoir les mots. D'ailleurs, quand on vous raconte un rêve, vous savez qu'on n'a pas le droit de donner des explications de rêve si tu n'es pas spécialiste de la langue. Car tout ce que tu vas raconter, c'est codé. Donc tu demandes à celui qui a rêvé de te raconter le rêve, c'est les mots qu'il va utiliser qui vont te donner en réalité l'ouverture. D'ailleurs, aujourd'hui, on soigne comme ça. C'est-à-dire que l'homme porte en lui les mots, l'expression de ce qu'il a dit. Ah, ça dit machin. Non, je voulais pas dire ça. C'était juste un problème de température. Ah, ton père, Arthur. Il y a des jeux comme ça, des petits jeux. Tu as l'impression que c'est rien du tout. Mais en réalité, il y a plein de degrés là-dedans. Sans arrêt. Je suis perturbé. Donc, tu as des problèmes avec ton père. J'ai mal au genou. Donc, il y a un problème de couple. Et ainsi de suite. Les machals, hein, dans toutes les langues, puisque toutes les langues sont issues de la Shona Kodesh. J'ai un copain d'ailleurs aussi dans mon village qui fait un dictionnaire de tous les mots du monde entier qui viennent en réalité de l'hébreu. Vous tombez par terre tellement il y a des mots, vous ne comprenez pas d'où ça sort, et c'est tout de la racine hébraïque. Il faut lui demander.
Nachon.
Ça veut dire qu'il y a un échange de langage et qui est bénéfique. C'est-à-dire on prend. Encore une fois, je répète ce que j'ai dit au départ. On ne jette pas les nations du monde ni ce qu'elles représentent. Il y a des choses à prendre là-bas. La preuve. On vous a tiré de la France. Donc il y avait quelque chose à tirer de là-bas. Okay? Vous êtes issu de cette mentalité, de cette forme d'Égypte, mais qui est en réalité bénéfique, qui avait des lumières. Et il fallait pouvoir les sortir de là-bas, ces lumières, et se rassembler sur notre terre, sans perdre votre mentalité et votre manière d'être à la française, entre guillemets. Ne croyez pas que c'est exilé. Au contraire, c'est un apport de force pour rassembler toutes les forces. Qu'est-ce qu'on a tiré de l'Égypte ? La Torah. La Torah était en Égypte, vous le saviez ou pas ? Bien sûr. Vachamushim alou bnei Israël me'eret Mitzrayim. Qu'est-ce que ça veut dire Vachamushim alou bnei Israël ? Ils sont montés. Non, ça c'est déjà des explications. Chamushim. Chamushim. Armée, Chamouche. Armée, ça veut dire ils sont sortis quoi? Ils sont sortis blindés. Blindés de quoi? Le Chamouchim, c'est-à-dire quelque chose qui a l'ordre du chiffre 50. 50 jours après la sortie d'Égypte, qu'est-ce qu'on a reçu? La Torah. Donc elle était en réalité dans ce fameux Chamouchim, c'est tout. Donc la Torah, elle était où? En Égypte, il fallait juste la décoder. Donc qu'est-ce que ça veut dire que la Torah en Égypte, selon ce que je viens de vous dire tout à l'heure? Qu'est-ce que c'est qu'une Torah en Égypte? Vous voulez que je vous dessine? Eh bien, c'est quand tu te mets face à un texte en hébreu, tu comprends rien. C'est la Torah en Égypte, c'est tout. Quand tu fais un travail et que tu décodes et que au bout d'un quart d'heure, une demi-heure, une heure, tu comprends le texte, qu'est-ce que tu as fait? Tu as libéré la Torah de cette Égypte, c'est tout. C'est une sortie d'Égypte. Tu viens de faire toi-même une sortie d'Égypte à ton niveau.
Ça va pas à mon compte de... Zerecheles, Kadma la Torah.
D'accord.
Et s'il était avant en Égypte, Zerecheles, il était après.
Non. Zerecheles, Kadma la Torah. Ça veut dire Zerecheles, Kadma la Torah. Tant que tu n'as pas compris qu'il y a deux degrés de Torah, je ne parle pas de la Torah au niveau parchemin. Quand je pose la question à mes élèves, ils tombent toujours dans le piège, les pauvres. Vous évitez ça. Sur quelle matière est écrite la Torah? Tout le monde me dit parchemin, bois, pierre, machin, épaule et Jacques. C'est pas ça. La Torah, elle est inscrite dans la vie. Arrêtez de me donner des formes. La Torah, c'est la vie. Après, elle a été recopiée sur un livre. Quand vous allez ouvrir le Echal de la Torah, vous croyez que c'est la Torah, c'est juste un recopiage. Mais la véritable Torah, elle est en nous. C'est la vie, c'est tout la vie, c'est ce qui gère la vie. Seulement, comme on est incapable de voir ça, il faut te mettre un livre avec un parchemin. Et toi, tu as l'impression que le parchemin, c'est ça, la vérité. Donc, tu n'as rien compris. Il y a marqué que ceux dans la halakha, que quand tu vois un Talmid Chacham marcher avec un Sefer Torah, tu embrasses la Torah, alors que tu devrais embrasser le Talmid Chacham. Puisque lui, c'est une Torah ambulante, c'est une Torah de vie. Toi, avec ton parchemin, tu peux rester 2000 ans, t'as rien compris. Vous comprenez? On est devenu religieux. On est tombé dans le piège de la religion. On a oublié que la Torah, c'est Etzraïm. Alors maintenant, tu as besoin de papier, de parchemin, des machins, des rouleaux. Ah, les rouleaux. Tu n'as pas compris. Avant les rouleaux, il y a la Torah. Donc en réalité, c'est ça le Derech Eretz. Derech Eretz, c'est-à-dire toutes les valeurs, j'appellerai maintenant la Torah du Père.
Direction de la terre du
Père. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Au niveau du Pshat, tu as raison. C'est-à-dire le premier degré qu'Akadosh Baruch Hu demande à l'homme d'Israël, même dans sa racine, c'est Derech Eretz, c'est-à-dire va de la terre.
Et après la Torah.
Pourquoi faire la Torah ?
On a commencé par sortir d'Égypte pour aller dans la terre. On a fait la
tout à fait.
C'est là que vous dites que le
non, pas du tout. Je dis que dans l'Égypte est cachée la Torah. Et qu'est-ce que c'est que cette Torah ? Aller sur la terre d'Israël. Au niveau de la pensée de cette Torah. C'est ce qu'elle te dit, cette Torah. La Torah n'est pas un livre de loi. Vous regardez des avocats qui parlent ou des juges, vous avez derrière eux une 200, 300 livres. Vous avez l'impression que la Torah, c'est pareil. Mais c'est faux. La Torah vient te dire quelque chose. Va vers cette terre, parce que c'est là-bas que je ferai de toi ce que tu es. C'est ça qu'elle te dit. Pas au niveau écrit. Au niveau du verbe divin dans la vie. C'est-à-dire que si tu as évolué depuis que tu es bébé, pourquoi tu grandis ? Qu'est-ce qui te fait grandir ? Qu'est-ce qui te pousse à grandir ? Qu'est-ce qui vous pousse à grandir ? Et à vous améliorer, à vous maquiller, à vous arranger, à vous coiffer, à aller chez les coiffeurs, à vous habiller, à tout. Qu'est-ce qui vous pousse à faire ça ? La vie. Et ça, c'est la Torah. La véritable Torah qui est dedans. Donc cette Torah existe bien avant. Alors, où est-ce qu'elle vient avant d'arriver chez les rabbins ? Chez les pères. Donc la Torah du père, Abraham, Yitzhak, Yaakov, a précédé la Torah des maîtres. C'est une leçon fondamentale chez Manitou. La Torah du père et la Torah du maître. Encore une fois, nous, on est tombé dans une Torah rabbinique, en oubliant la Torah des pères, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Pirkei Avot. Encore une fois, tu es dans le piège. C'est bien ? On ne peut pas tout sur un pied, parce que c'est énorme, mais bon. Les machals, alors je vais vous donner un exemple pour ne pas qu'on reste en l'air. Bapshat, aux premières lectures, Paro ou Melech Mitzrayim. Paro, c'est le roi d'Égypte. Bon, ça va, c'est sympathique. D'ailleurs, ce n'est pas son prénom. C'est un nom global, général, pour le roi d'Égypte. Il s'appelle Paro. D'accord ? Il aurait pu s'appeler d'ailleurs Moshe. Si Moshe avait choisi ce camp-là plutôt que l'autre, le prochain pharaon aurait été Moshe. D'ailleurs, on aurait sorti d'un sarcophage, au lieu de tout en carton, tout en camon et Moshe Rabbeinu. Chas v'shalom. Moshe a choisi ses enfants d'Israël comme frères. Ok. Alors, Paro, c'est le roi de l'Égypte. Maintenant, vous avez compris un petit peu, un tout petit peu, ce que représente la notion d'Égypte. Mais vous comprenez que maintenant, elle a un roi, cette notion. Qu'est-ce que c'est donc ce roi d'Égypte ? C'est celui qui dirige, c'est le centre de contrôle de tout ce monde qu'on vient en quelques trois quarts d'heure à peu près d'essayer d'exprimer. C'est-à-dire la maladie, l'étouffement de l'être, la sclérose des noms et des vers, de l'expression, du manque de savoir s'exprimer. Tout ça, c'est l'Égypte. Et ça, ça a un roi. Ça a un roi. C'est-à-dire ce roi doit être justement porteur du même message, d'une manière codée. D'accord ? Et si je prends le mot paro et je le décompose, j'ai P, donc j'ai déjà la bouche. Ra. La bouche qui ferme. Ra, c'est pas méchant. Le mal, c'est la fermeture, c'est-à-dire celui qui ne veut que pour lui. Ce sont des initiales. Ratson, asmi. C'est-à-dire, la bouche de l'égoïsme, c'est le nom de code du roi de l'Égypte en question. Moralité, vous avez un petit pharaon comme ça chez vous ? Mais bien sûr. Malheureusement, chacun de nous a le sien. C'est-à-dire que c'est ta bouche d'égoût ou ta bouche d'égoïsme, c'est la même chose. Tu ne penses qu'à toi, il n'y a que toi qui compte. Il n'y a personne d'autre. C'est un problème très grave. Ça veut dire que c'est vrai qu'il faut s'aimer soi-même, mais jusqu'à quel point ? Quand je te montre une photo de famille, Tu regardes tout le monde une seconde et toi, tu restes sur toi-même pendant un quart d'heure, comme si tu ne connaissais pas. Il n'y a que toi qui t'intéresse. Après, tu refais, soi-disant, une petite... et tu reviens encore. Vous comprenez? Alors, c'est vrai qu'il faut avoir ce degré-là, c'est très important, mais jusqu'à quel niveau? Eh bien, le roi de l'Égypte est là. Ça veut dire que la source des maladies, c'est ça. Donc, la source de la maladie, développer le mot maladie un petit peu plus, ça fait malédiction. C'est la même chose. C'est-à-dire, la source de la malédiction, c'est Pharao. Parce que c'est le roi de cette Égypte. Donc si je sais décoder encore une fois un nom de code Pharao, quel Pharao code? Tu peux faire un film? Au lieu de Da Vinci? Quel? Tu peux faire Pharao code, le code Pharao, et bien tu peux savoir exactement à qui tu as affaire et comment tu peux le décoder en toi. Et qui est plus fort que lui en moi? Moshe. Donc Moshe, c'est Hashem, donc c'est le décodeur qui donne les noms, Hashem. Donc le décodeur des noms. Les sages, juste pour rigoler, comme quoi ils ont le sens de l'humour, nous disent que Pharao faisait 50 cm de haut. C'est sa taille. Alors que Moshe, c'est un petit gnome comme ça, un petit machin comme ça. Tu le prenais sur ta table. Okay. 50 cm. C'est-à-dire Ama. Même pas 50 cm, Ama. Voilà Ama. De là à là. Voilà, imaginez-vous un petit bonhomme. C'est là. Okay. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est des notions. Vrai ou pas vrai, maintenant, on s'en fiche. C'est ce que les sages veulent nous dire. Comprenez qu'ils viennent encore une fois te donner des codes. Même la Gemara, la Mishnah et tout ça, c'est des codes. Et de l'autre côté, mon cher Rabbeinu, 10 amos, c'est-à-dire 5 mètres. Ça veut dire, mon cher Rabbeinu, sans faire exprès, il rentre chez Pharao, il écrase, il ne voit même pas. Dit, tiens, j'ai entendu un bruit. Qu'est-ce que ça veut dire? Et regardez la puissance de ce Pharao. À tel point qu'il faut lui demander l'autorisation pour que Moshe sorte. Dieu envoie Moshe et Aaron et tous les enfants d'Israël, c'est ce petit machin, pour lui dire, laisse-nous sortir. Ça veut dire que dans ta vie, en réalité, même un petit bouchon, il peut te massacrer la vie. Alors que ton géant intérieur, il est étouffé par ce petit bouchon. Comprenez? Maintenant, ce Pharao-là, Melech Mitzrayim, c'est dans le pshat. Ach bekri'af amukayoter, mais quand tu pénètres un petit peu plus le texte et tu le décodes, Pharao shayach le moussag hazman, tu découvres qu'en réalité, Pharao, c'est la notion de temps. Comment on arrive à ça? Eh bien, nous avons la valeur numérique. Pharao gematria shana. C'est-à-dire, Pharao est en valeur numérique shana. Shana, c'est une notion de chinouille, donc de possibilité de changement. Donc d'année, de temps. Le temps est un cli, est un moyen de changement. Si tu utilises le temps à bon escient, ben tu changes. C'est ce qu'on se souhaite d'ailleurs, shana tova. C'est pas bonne année, c'est bon changement. Si Dieu veut cette année, tu vas changer. Pour le bien. Shana tova, shinui tov. Et veut dire aussi répétition. Mishna, shinui. Et qui veut dire aussi dualité de shnaim. Donc la seconde. Donc la notion de temps. La plus petite notion de temps, c'est la seconde. Dans toutes les langues. Shnia. C'est-à-dire, il y a deux points pour avoir du temps. Comprenez comment c'est profond la Torah. C'est-à-dire, ça ne s'arrête pas. Or, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je m'en fiche que Pharao, il ait la même valeur numérique, c'est-à-dire le même poids que le temps? Ça veut dire tout simplement que le roi d'Égypte, donc le roi de la maladie, c'est un temps qui n'est pas utilisé normalement. Autrement dit, les Égyptiens servent qui? Le temps. Donc ils sont esclaves de qui? Du temps. Et être esclave du temps, c'est en réalité être esclave d'une valeur temporelle qui est comme une loi naturelle qui ne bouge pas, tu es bloqué dedans, et tu ne peux pas comprendre qu'il y ait des degrés au-dessus du temps, qui domine le temps, qui transcende le temps, et qui le magnifie. Qu'est-ce qu'on fait pendant les fêtes? On est mekachim et tazman. On sanctifie le temps. Vous comprenez ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire sanctifier le temps? Quand je me suis marié avec ma femme, je lui ai dit « Areat mekudesh et li ». Eh bien, nous aussi, mekadesh Israël et tazmani. Israël mekadesh tazman. C'est-à-dire je me marie avec le temps. Donc j'ai une mitzvah de me marier avec le temps à condition que je sois dominant du temps, que je lui donne une direction. Donc le temps n'existe pas, c'est juste un panier dans lequel je peux mettre toutes les actions que je veux. Et donc c'est élastique. Et quand tu dis j'ai pas le temps, c'est parce qu'en réalité, tu glandouilles. Tu peux faire, c'est peu importe, c'est bon. C'est en arabe. Le temps, en réalité, c'est un grand panier d'action. Et je peux mettre dedans et faire des tonnes de choses. D'ailleurs, les gens te posent la question, mais comment tu fais autant de gens en si peu de temps? Mais en réalité, la notion de temps n'existe pas. Il y a des gens pour qui le temps passe très vite, et il y a des gens pour qui il est lent. Quand tu comprends rien dans un examen, tu as l'impression que le temps ne bouge pas. C'est la même chose. Ça veut dire, si tu tombes dans le degré négatif, okay, tu peux aussi tomber dans un grand sommeil. Donc, quel est, je vais vous donner une expression réelle, quel est le... Vous savez que le temps est géré par des astres. Abraham Avinu, c'est pas bien avant tous les astrologues. Sefer Yetzirah. Qui est le premier mazal des 12 mois? Le bélier, donc celui de Nissan. Comme par hasard, c'est le roi d'Égypte. Le dieu d'Égypte, c'est un bélier. Donc en réalité, l'Égypte sert qui? Le premier mazal du temps. Donc quand est-ce que je dois, moi, sortir pour prouver que je suis au-dessus? Pendant Nissan, pendant la domination de ce mazal. Et quand est-ce que dans le mois entier, le mazal est prédominant et qu'il a le plus de force? Le 15 du mois hébraïque. Donc le 15 du mois hébraïque, au moment où le premier mazal du temps, donc la base du temps, la racine du temps, la matrice du temps, moi, Israël, je dis, je suis au-dessus de ça, moi. Vous comprenez pourquoi on sort le 15 du mois de Nissan? Donc là, on vient de juste de voir, comme ça, en petit degré, que vous pouvez traduire votre sortie d'Égypte dans tous les domaines de votre vie. Ça, c'est une notion, c'est le temps. Je vous ai parlé tout à l'heure au niveau de la parole, je peux vous parler au niveau du dat, c'est-à-dire de tout votre système nerveux, c'est tout la même chose. Donc, il faudrait des années, des millénaires pour comprendre toutes ces notions que la Torah nous donne d'une manière comme ça, tu dis. Rishon, Sheni, Shlishi, Mishéberach, Shabbat Shalom. C'est un problème. Alors, on n'a pas perdu, mais on était incapable d'entendre. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération, et ça aussi, ça fait partie du temps, c'est que les maîtres d'aujourd'hui, les enseignants d'aujourd'hui, doivent s'adapter à la génération en question, dans le temps présent, et commencer à leur donner une Torah profonde, et ne plus les négliger, et les considérer comme des abrutis, des imbéciles, en leur donnant une petite Torah, rien du tout. C'est Shalom. Le Ben Israël dit ça dans la première page de Da'at Utvuna. Que si tu ne fais pas ça, Chazbe Shalom, c'est comme si tu as bafoué la Torah. Tu as rendu la Torah mesquine, petite. Madodech midod hayafa banashim. Qu'est-ce que tu as de plus que les autres? Tu nous racontes une histoire, nous aussi on a un Ancien Testament, le Nouveau Testament. Si tu n'as pas ces notions et que tu ne développes pas cette Torah, c'est en réalité, chas v'shalom, appauvrir Dieu dans ce monde. Et nous, on est venus pour le manifester, pour le magnifier, pour le dévoiler, pour le grandir. Donc, moralité, ce monde est un grand cercle. Je vous court-circuite. Ce monde est un grand cercle. Et dedans, il y a Israël. Rappelez-vous de la semaine dernière. C'est la même chose. Ça veut dire que tu dois dévoiler en réalité ce triangle. Mais là, il est enfermé. Donc ça, c'est pas le bon schéma. Le bon schéma, c'est lorsque le triangle domine le cercle. D'accord ? Or, ce triangle est synonyme de droiture, vous vous rappelez ? Alors que le cercle est synonyme de fermeture et de blocage dans un système. Les pharaons portaient des tefilines de la main et des tefilines de la tête. Regardez dans les... partout. Seulement à la place du cube qui représente la droiture, ils avaient le serpent qui représente le monde circulaire. La même chose au niveau des tefilines chez le roche. Nous, on a des directions, c'est-à-dire le yosher, ce qu'on appelle la droiture, et l'Égypte est là aussi, ici, un serpent. Plus que ça, dans le... Justement, c'est pour voler en réalité le secret d'Israël et le mettre dans un cercle.
Pourquoi on n'a pas fait des tefilines triangulaires ?
Alors, les tefilines sont triangulaires. Elles sont triangulaires. C'est pour ça qu'un côté, tu as marqué Shin et Shin. Shin, c'est un triangle. Seulement, tu as un Shin à 4 et un Shin à 3. C'est-à-dire là, tu comptes les vides. Donc, tu as 3 vides dans les 4 barres. De l'autre côté, tu comptes les pleins. Mais en réalité, c'est des triangles. Et le triangle apparaît dans notre monde comme un cube. D'accord ?
J'ai vu la télévision, et au moins une
trentaine, en
Russie, qui s'est passé dans le sud du Japon,
okay.
Les gens avaient des
tefilines, qui avaient
la forme de la
pyramide. C'est exactement ça. Alors je clôture le chiot, dans le sarcophage de tout en carton, là, comment, comment okay. Ils l'ont trouvé avec 2 symboles sur sa tête, un aigle et un serpent. Ça veut dire qu'il mettait 2 tefilines, Rashi et Rabbeinu Tam. Je rigole pas, dans le sens de la clipa. Car dans la Kabbalah, l'aigle représente la Bina et le serpent la Malchut. Et dans la Kabbalah, les tefilines de Rashi c'est Malchut et tefilines de Rabbeinu Tam c'est Bina. Ça veut dire qu'il avait cette notion-là, mais dans le sens de la clipa. Et nous, à chaque fois, on demande la droiture et non pas le monde circulaire pour que la droiture donne, amène ses valeurs dans le monde circulaire. Quand vous commencez le Kaddish, Itgadal Veitgadal Sheme Rabba, c'est les lettres de Yosher, c'est-à-dire la droiture. C'est-à-dire que nous sommes en train de porter la droiture dans ce monde-là. C'est bien ? Toda Rabba.
Je vous avais dit il y a très longtemps.